Edith Wharton. Fièvre romaine. Deux dames américaines, d'âge mûr mais élégantes, quittèrent la table où elles venaient de prendre leur repas, traversèrent l'agréable terrasse du restaurant romain, s'accoudèrent au parapet et, après s'être d'abord regardées l'une l'autre, contemplèrent les gloires passées du Palatin et du Forum avec la même expression de vague mais bienveillant contentement. Alors qu'elles se penchaient ainsi, une voix de jeune fille se fit gaiement entendre depuis l'escalier qui menait à la cour en dessous. « Mais venez donc » criait-elle, pas aux deux femmes, mais à une invisible compagne. « Laissons les jeunes à leur tricot !» Et une voix tout aussi jeune lui répondit en riant « Oh, écoutez, Babs, ce n'est pas vraiment du tricot !»« Mais je parlais aux figurés !» répondit la première. « Après tout, nous ne laissons pas vraiment d'autre occupation à nos pauvres parents !» Et la conversation se perdit quand elles eurent tourné l'escalier. Les deux dames se regardèrent à nouveau, cette fois avec un soupçon de sourire embarrassé. Et celle qui était la plus petite et la plus pâle hocha la tête et rougit légèrement. « Barbara !» murmura-t-elle, dans une réprimande qui n'atteignit même pas la voix moqueuse dans l'escalier. L'autre dame, qui était plus grande et plus colorée, avec un petit nez décidé et de forts sourcils noirs, rit avec bonne humeur. « Voilà ce que nos filles pensent de nous !» Sa compagne répondit d'un geste désapprobateur. « Pas de nous personnellement, il faut nous en souvenir. Il s'agit juste du concept moderne de mère, et vous voyez... » Et d'un air à moitié coupable, elle sortit de son élégant sac à main noir une pelote de soie cramoisie traversée de deux fines aiguilles. « On ne sait jamais, » murmura-t-elle. « Le nouveau système nous a certainement donné beaucoup de temps à tuer, et parfois le simple fait de regarder me fatigue, même regarder ça. » Son geste désignait maintenant le stupéfiant paysage à leurs pieds. La dame brune rit à nouveau, et elles reportèrent leur attention sur le paysage, le contemplant en silence, avec cette sorte de sérénité diffuse qui doit venir de l'éclat printanier des cieux romains. L'heure du repas était passée depuis longtemps, et elles avaient pour elles deux toute l'extrémité de la vaste terrasse. À l'autre bout, quelques groupes, retenus par un dernier regard à la vaste cité, ramassaient leurs guides touristiques ou cherchaient de quoi laisser un pourboire. Enfin, le dernier groupe se dispersa et les deux dames restèrent seules dans l'air des hauteurs. Eh bien, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas juste rester là, dit Mrs. Slade, la dame au teint coloré et aux sourcils énergiques. Deux chaises en osier étaient restées abandonnées tout près, et elle les poussa dans l'angle du parapet, s'installa sur l'une d'elles et contempla le Palatin. Après tout, c'est toujours le plus beau paysage du monde. Il le sera toujours pour moi, approuva son amie Mrs. Ansley, en appuyant si légèrement sur le mot « moi » que Mrs. Slade, bien qu'elle l'ait remarqué, se demanda si ce n'était pas purement accidentel, comme ces mots soulignés un peu partout dans les correspondances d'antan. Grace Ansley a toujours été vieux jeu, pensa-t-elle. Et elle ajouta à haute voix, avec un sourire, « C'est un paysage auquel nous sommes toutes deux habituées depuis de nombreuses années. Quand nous nous sommes rencontrées ici pour la première fois, nous étions plus jeunes que nos filles ne le sont maintenant. Vous vous souvenez ?»« Oh oui, je me souviens, » murmura Mrs. Ansley, avec la même tension indéfinissable. « Il y a un maître d'hôtel là-bas qui attend, » s'interrompit-elle. Elle était évidemment beaucoup moins sûre d'elle que sa compagne quant aux droits qu'elle avait en ce monde. Je vais lui apprendre à attendre, dit Mrs. Slade, tendant le bras vers un sac aussi discrètement opulent que celui de Mrs. Ansley. Faisant signe au maître d'hôtel, elle lui expliqua qu'elle et son amie étaient des amoureuses de longue date de Rome, et qu'elles auraient aimé passer le reste de l'après-midi à profiter de la vue, c'est-à-dire si cela ne perturbait pas le service. Le maître d'hôtel, s'inclinant devant le pourboire, l'assura que ces deux dames étaient les bienvenues, et le seraient d'autant plus si elles voulaient bien rester dîner. Une nuit de pleine lune, elles s'en souviendraient. Les sourcils noirs de Mrs. Slade se froncèrent, comme si cette référence à la lune était déplacée et même inopportune. Mais elle chassa d'un sourire cette attitude, tandis que le maître d'hôtel se retirait. « Eh bien, pourquoi pas? Nous pourrions faire pire. Je suppose qu'on ne sait même pas quand les filles rentreront. Savez-vous même d'où elles rentreront? Pas moi ?» Mrs. Ansley rougit encore légèrement. « Je pense que ces deux jeunes aviateurs italiens que nous avons rencontrés à l'ambassade les ont invités à voler jusqu'à Tarquinia pour le thé. Je suppose qu'elles voudront attendre et faire le vol de retour sous la pleine lune. » « La pleine lune, la pleine lune! Quel rôle elle continue à jouer! Croyez-vous que nos filles soient aussi sentimentales que nous l'étions? J'en suis arrivé à la conclusion que je ne sais pas le moins du monde ce qu'elles sont. » dit Mrs. Ansley. Et peut-être à l'époque n'en savions-nous pas plus l'une sur l'autre. Peut-être, en effet. Son ami lui lança un timide regard. Je ne vous aurais jamais cru sentimentale, Alida. Peut-être ne l'étais-je pas. Mrs. Slade ferma les paupières en y réfléchissant. Et l'espace d'un instant, les deux dames, qui avaient été intimes depuis l'enfance, réalisèrent combien peu elles se connaissaient. Chacune, bien sûr, avait un qualificatif tout prêt à accoler au nom de l'autre. Mrs. Delphine Slade, par exemple, aurait pu se dire, ou répondre à quiconque l'aurait interrogé, que Mrs. Horace Ansley, il y a 25 ans, avait été extrêmement belle. Non, vous ne le croiriez pas, n'est-ce pas, bien qu'elle soit encore, bien sûr, charmante et distinguée. Eh bien, jeune fille, elle était exquise, beaucoup plus belle que sa fille Barbara, même si certainement Babs, selon les standards modernes, était plus efficace. Elle avait plus de piquant, comme on dit. Bizarre, avec de telles nullités comme parents. Oui, Horace Ansley était bien l'exacte copie de sa femme. Des spécimens de musée du vieux New York. Bien sûr, eux, irréprochables, exemplaires. Mrs. Slade et Mrs. Ansley avaient vécu l'une en face de l'autre, au propre comme au figuré, pendant des années. Quand les rideaux du dressing du 20 East 73rd Street étaient changés, le numéro 23, de l'autre côté de la rue, en était toujours averti. Comme de tous les déplacements, achats, voyages, anniversaires, maladies, la terne chronique d'un couple bien sous tout rapport. Peu de choses échappaient à Mrs. Slade. Mais elle s'en était déjà lassée lorsque son mari réussit son gros coup à Wall Street. Et quand ils achetèrent en haut de Park Avenue, elle commençait déjà à penser « J'aimerais autant habiter en face d'un speakeasy pour changer ». Au moins, on pourrait y voir les descentes de police. L'idée de voir Grace embarquée par la police était si amusante qu'avant son déménagement, elle en avait parlé au cours d'un dîner d'amis. La saillie amusa et tout le monde s'en empara. Elle s'était demandé quelquefois si elle avait traversé la rue et atteint Mrs. Ansley. Elle espérait que non, mais ne s'en souciait guère. C'était au temps où la respectabilité commençait à moins compter, et cela ne faisait pas grand mal de se moquer un peu de gens aussi réprochables. Quelques années plus tard, et à peu de mois d'intervalle, les deux dames avaient perdu leur mari. Il y eut l'échange de couronnes mortuaires et de condoléances appropriées, et un bref renouveau de leur intimité dans la pénombre de leur deuil commun. Et maintenant, après un autre intervalle, elles s'étaient retrouvées par hasard à Rome, dans le même hôtel, chacune devenue la modeste suivante de sa fille. La similarité de leur sort les avait à nouveau rapprochées et leur permettait de plaisanter sur le fait que, si, jadis, il était épuisant de suivre les jeunes filles, il aurait été encore plus ennuyeux de nos jours de ne même pas essayer. Il était certain, pensait Mrs. Slade, qu'elle ressentait son propre désœuvrement avec plus d'intensité que ne le ressentirait jamais la pauvre Grace. Il y avait une grande différence entre être la femme de Delphine Slade et sa veuve. Elle avait toujours pensé, avec une certaine fierté conjugale, qu'elle était l'égale de son mari quant à ses qualités sociales et qu'elle contribuait pleinement à la réalisation du couple exceptionnel qu'il formait. Mais la différence après sa mort fut irrémédiable. En tant que femme du célèbre avocat d'affaires, toujours entre deux dossiers internationaux, chaque jour avait apporté son lot d'obligations excitantes et imprévues, s'occuper à l'improviste d'éminents collègues étrangers, partir précipitamment en voyage d'affaires à Londres, Paris ou Rome, où ils étaient reçus avec les mêmes égards, et même s'amuser à entendre sur son passage. Quoi, cette femme élégante avec ses vêtements charmants et ses beaux yeux est Mrs. Slade, la femme de Slade? Vraiment, les femmes des célébrités sont pourtant souvent si quelconques. Oui, être la veuve de Slade était bien fade après cela. Se hisser à la hauteur de son mari avait mobilisé toutes ses facultés. Maintenant, elle n'avait plus qu'à se soucier de sa fille. Car le fils qui semblait avoir hérité des talents de son père était mort subitement pendant l'enfance. Elle avait réussi à traverser cette horreur parce que son mari était là, qu'il avait besoin de son aide, aussi bien qu'il lui apportait la sienne. Maintenant, après la mort du père, la pensée de ce fils lui était devenue insupportable. Il n'y avait plus qu'à être la mère de sa fille, et cette chère Jenny était une fille si parfaite qu'elle avait à peine besoin d'une mère. Avec Babs Hensley, je ne crois pas que je serais aussi tranquille, pensait parfois Mrs. Slade, à demi envieuse. Mais Jenny, qui était plus jeune que sa brillante amie, avait cette rare particularité de rendre d'une certaine façon sa beauté et sa jeunesse aussi inutiles que si elle en était dépourvue. C'était très déconcertant et, pour Mrs. Slade, un peu ennuyeux. Elle espérait que Jenny tomberait amoureuse, même de l'homme qu'il ne fallait pas, et qu'elle devrait la surveiller, contrer ses manigances, venir à son secours. Et au lieu de cela, c'était Jenny qui prenait soin de sa mère, la protégeait des courants d'air, s'assurait qu'elle avait bien pris son fortifiant. Mrs. Hensley était moins précise que son amie, et l'image qu'elle se faisait de Mrs. Slade était plus diffuse, faite de touches plus subtiles. Alida Slade est extrêmement brillante, mais moins brillante qu'elle ne se l'imagine. Voilà ce qui aurait le mieux résumé sa pensée. Encore qu'elle aurait ajouté, pour mieux éclairer son interlocuteur, que Mrs. Slade avait été une jeune fille vraiment ravissante, bien plus que sa fille, qui était jolie, bien sûr, et plutôt futée, mais n'avait pas hérité de sa mère son éclat, comme l'avait dit quelqu'un à l'époque. Mrs. Hensley aimait à employer de tels mots et à les mettre entre guillemets, comme si cela était d'une audace inouïe. Non, Jenny n'était pas comme sa mère. Parfois, Mrs. Hensley avait l'impression qu'Alida Slade était déçue. Finalement, elle avait eu une vie plutôt triste, pleine d'échecs et d'erreurs. Mrs. Hensley en avait toujours été bien désolée pour elle. Ainsi se percevait chacune de ces deux dames, qui se regardaient l'une l'autre par le mauvais bout de la lorgnette. Longtemps, elles restèrent assises l'une à côté de l'autre sans parler. C'était comme si, pour toutes deux, c'était un soulagement d'abandonner leurs activités plutôt futiles en présence de ce vaste memento mori auquel elles faisaient face. Mrs. Slade restait tranquille, les yeux fixés sur les pentes dorées du palais de César, et après un moment, Mrs. Ansley cessa de remuer son sac et s'abandonna à la méditation. Comme beaucoup d'amis intimes, les deux dames n'avaient encore jamais eu l'occasion de rester ensemble silencieuses, et Mrs. Ansley était un peu embarrassée par ce qui ressemblait, après tant d'années, à une nouvelle étape dans leur intimité, une étape dont elle ne savait pas encore bien comment elle devait l'appréhender. Soudain, l'air se remplit des profondes notes métalliques qui semblaient périodiquement recouvrir Rome d'un toit d'argent. Mrs. Slade jeta un œil à sa montre. « 5 heures déjà, » dit-elle, comme surprise. Mrs. Ansley hasarda. « Il y a un bridge à l'ambassade à 5 heures. » Pendant longtemps, Mrs. Slade ne répondit pas. Elle semblait s'être abîmée dans la contemplation, et Mrs. Ansley pensa que la remarque lui avait échappé. Mais après un moment, elle dit, comme s'éveillant d'un rêve, « Un bridge, vous disiez. Non, sauf si vous y tenez, mais je ne le crois pas, vous savez. » « Oh non !» se hâta de l'assurer Mrs. Ansley. « Je ne m'en soucie guère. C'est si charmant ici, et tellement plein de vieux souvenirs, comme vous dites. » Elle s'installa dans le fauteuil et, presque furtivement, sortit son tricot. Mrs. Slade le remarqua du coin de l'œil, mais ses mains soignées restèrent immobiles sur ses genoux. « J'étais en train de penser, dit-elle lentement, à tout ce que Rome peut évoquer de différent pour chaque génération de voyageurs. Pour nos grands-mères, c'était le danger de la fièvre romaine, pour nos mères, des dangers d'ordre sentimental, comme nous étions bien gardés alors. Et pour nos filles, pas plus de danger qu'en plein milieu de Main Street. Elles ne savent pas ce qu'elles manquent. » La longue lumière dorée commençait à faiblir, et Mrs. Ansley approcha un peu son tricot de ses yeux. « Oh oui, comme nous étions bien gardés !» « J'ai toujours pensé, continua Mrs. Slade, que nos mères avaient eu la tâche bien plus difficile que nos grands-mères. Quand on risquait d'attraper la fièvre romaine dans les rues, il devait être comparativement plus facile de faire revenir les filles à l'heure du danger. Mais quand vous et moi étions jeunes, devant tant de beauté, avec l'excitation de la désobéissance et pas plus de risque que de prendre froid dans l'heure qui suit le coucher du soleil, nos mères devaient avoir bien du mal à nous retenir, n'est-ce pas ? » Elle se tourna de nouveau vers Mrs. Ansley, mais celle-ci avait atteint un point délicat de son tricot. « 1, 2, 3, 2 de passé. Oui, en effet, approuva-t-elle, sans lever les yeux. » Les yeux de Mrs. Slade restèrent fixés sur le tricot avec une profonde attention. « Elle peut tricoter en face de tout cela. » Comment peut-elle ? Mrs. Slade se pencha en arrière, rêveuse, son regard parcourant les ruines qui lui faisaient face, la grande combe verte du forum, la façade de l'église au-delà éclairée par les derniers rayons du soleil, et l'immensité lointaine du Colisée. Soudain, elle pensa : c'est bien joli de dire que nos filles en ont fini avec les sentiments et le clair de lune. Mais si Babs Ansley n'est pas sorti pour mettre la main sur ce jeune aviateur, celui qui est un Marchese, alors c'est que je ne sais rien de rien. Et Jenny, elle, n'a pas une chance. Je le sais bien aussi. Je me demande même si ce n'est pas la raison pour laquelle Grace Ainslie aime tellement les voir sortir ensemble. Ma pauvre Jenny est un faire-valoir. Mrs. Slade fit entendre un rire à peine audible, et Mrs. Ainslie en reposa son tricot. Eh bien? Oh, rien. Je pensais seulement à quel point tout réussit à votre Barbara. Ce garçon Campolieri est un des meilleurs partis de Rome. Ne prenez pas cet air innocent, ma chère. Vous savez que c'est le cas. Et je me demandais, avec tout le respect que je vous dois, vous comprenez, je me demandais comment deux personnes aussi exemplaires qu'Horace et vous avaient pu engendrer quelqu'un d'aussi dynamique. Mrs. Slade rit à nouveau, avec une nuance de rudesse. Les mains de Mrs. Ainslie restaient inertes entre ses aiguilles à tricoter. Elle regardait tout droit ces témoignages de passions et de splendeurs accumulés à ses pieds, mais son petit profil restait presque dénué d'expression. Elle finit par dire « Je crains que vous ne surestimiez Babs, ma chère. » Mrs. Slade se sentit plus à l'aise. « Non, je l'apprécie. » Et il se peut même que je vous envie. Oh, ma fille est parfaite. Si j'étais une invalide chronique, eh bien, je crois que je préférerais être entre les mains de Jenny. Il doit y avoir des fois. Mais non, j'ai toujours voulu une fille brillante. Et je n'ai jamais bien compris pourquoi j'avais un ange à la place. Mrs. Ainslie fit écho à son rire par un léger murmure. Babs est un ange aussi. Bien sûr, mais avec des ailes couleur d'arc-en-ciel. Bon, elles sont en mer avec ces jeunes gens, et nous nous sommes assises ici. Voilà qui rappelle le passé avec un peu trop de précision. Mrs. Ainslie avait repris son tricot. On aurait presque pu penser, pour quelqu'un qui la connaîtrait moins, pensa Mrs. Slade, que, pour elle également, de trop nombreux souvenirs remontaient des ombres croissantes de ces nobles ruines. Mais non, elle était simplement absorbée dans son travail. De quoi pouvait-elle bien avoir à se soucier? Elle savait que Babs, quand elle reviendrait, serait presque certainement fiancée au très convoité Campolieri. Et elle vendra la maison de New York pour s'installer près d'eux à Rome, mais sans jamais les envahir. Elle a beaucoup trop de tact pour cela. Mais elle aura un excellent cuisinier et juste les gens qu'il faut pour le bridge et pour les cocktails. Et une vieillesse parfaite et paisible parmi ses petits-enfants. Mrs. Slade éprouva un brusque dégoût de soi qui mit fin à ses rêveries prophétiques. Il n'y avait personne dont elle avait moins le droit de penser du mal que Grace Ainslie. Ne pourrait-elle jamais cesser de l'envier? Peut-être avait-elle commencé trop longtemps auparavant. Elle se leva et s'accouda au parapet, emplissant ses yeux troublés de la tranquillité magique de l'instant. Mais au lieu de la tranquilliser, la vue sembla augmenter son exaspération. Elle tourna son regard vers le Colisée. Déjà son flanc doré s'enfonçait dans une ombre pourpre, et au-dessus, le ciel s'étendait dans une clarté de cristal, sans lumière ni couleur. C'était le moment où l'après-midi et le soir se rejoignaient au milieu des cieux. Mrs. Slade se retourna et posa la main sur le bras de son amie. Le geste était si brusque que Mrs. Ainslie leva les yeux, surprise. « Le soleil se couche. N'avez-vous pas peur, ma chère ?»« Peur ? De la fièvre romaine ou de la pneumonie. Je me souviens combien vous aviez été malade cet hiver-là. Jeune fille, vous aviez une gorge bien délicate, n'est-ce pas ?»« Oh, nous sommes très bien ici. » En bas, sur le forum, un froid mortel survient d'un seul coup, c'est vrai, mais pas ici. Ah, bien sûr, vous le saviez, parce que vous deviez être tellement prudente. Mrs. Slade se retourna vers le parapet. Elle pensait, je dois faire encore un effort pour ne pas la haïr. Et à haute voix, elle dit, Chaque fois que je regarde le forum là-bas, je me souviens de cette histoire d'une grand-tante à vous, c'est bien cela? Cette grand-tante tellement malfaisante. Oh oui, grand-tante Harriet, celle dont on dit qu'elle avait envoyé sa jeune sœur au forum après le coucher du soleil, lui cueillir une fleur qui ne s'ouvre que la nuit pour son album. Toutes nos grand-tantes et grand-mères avaient des albums de fleurs séchées. Mrs. Slade approuva. Mais en réalité, elles l'y avaient envoyé parce qu'elles étaient amoureuses du même homme. Eh bien, c'est ce qu'on dit dans la famille. On dit que tante Harriet l'a avoué des années plus tard. Il est vrai que la pauvre petite sœur attrapa la fièvre et mourut. Mère utilisait cette histoire pour nous effrayer quand nous étions enfants. Et vous aussi, vous m'avez effrayée avec elle quand vous et moi étions jeunes filles. Cet hiver où je me suis fiancée avec Delphine. Mrs. Annesley rit faiblement. Oh, vraiment, je vous ai réellement effrayée? Je ne vous crois pas facile à effrayer. Pas souvent, c'est vrai, mais cette fois-là, je l'étais. J'étais facile à effrayer parce que j'étais tellement heureuse. Je me demande si vous savez ce que cela veut dire. Oui, bafouilla Mrs. Annesley. Eh bien, je suppose que c'est la raison pour laquelle l'histoire de votre méchante tante avait fait une telle impression sur moi, et je pensais, il n'y a plus de fièvre romaine, mais il fait un froid mortel au forum une fois le soleil couché, surtout après une chaude journée, et le Colisée est même encore plus froid et plus humide.
Le Colisée?
Oui, il n'était pas facile d'y entrer une fois les portes fermées pour la nuit, pas facile du tout. Mais en ce temps-là, on pouvait y arriver, et même souvent. Les amoureux qui ne pouvaient pas se retrouver ailleurs s'y donnaient rendez-vous, vous le saviez?
Je ne saurais dire, je ne me souviens plus.
Vous ne vous souvenez plus. Vous ne vous souvenez plus avoir visité une ruine ou une autre un soir et y avoir attrapé froid. Vous étiez censé être sorti pour contempler le lever de la lune. On a toujours dit que cette expédition était la cause de votre maladie. Il y eut un moment de silence, puis Mrs. Annesley reprit. Vraiment, c'était il y a tellement longtemps. Oui, et vous vous êtes rétabli, donc c'était sans importance. Mais je suppose que ça a étonné vos amis, la raison avancée pour votre maladie. Je veux dire, parce que chacun savait que vous étiez très prudente avec votre gorge, et votre mère prenait tellement soin de vous. Et pourtant, vous avez fait cette sortie si tard, n'est-ce pas, cette nuit-là?
Peut-être bien, les filles les plus prudentes ne sont pas toujours prudentes. Qu'est-ce qui vous fait penser à cela maintenant?
Mrs. Slade semblait n'avoir aucune réponse toute prête, mais après un moment, elle éclata. Parce que je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Mrs. Annesley releva vivement la tête. Ses yeux étaient pâles et grands ouverts. Vous ne pouvez plus supporter quoi? Eh bien, que vous ne sachiez pas que j'ai toujours su pourquoi vous étiez sorti.
Pourquoi je suis sorti?
Oui, vous pensez que je bluffe, n'est-ce pas? Vous êtes sorti pour rencontrer l'homme à qui j'étais fiancée. Et je peux vous répéter chaque mot de la lettre qui vous y a conduit.
Tandis que Mrs. Slate parlait, Mrs. Annesley s'était levée en titubant. Son sac, son tricot et ses gants, dans la panique, glissèrent à terre. Elle regardait Mrs. Slade comme si elle regardait un fantôme. Non, non, ne faites pas ça, bégaya-t-elle.
Et pourquoi pas? Écoutez si vous ne me croyez pas. Mon amour, nous ne pouvons continuer ainsi. Je dois vous voir seule. Venez au Colisée demain immédiatement après la tombée de la nuit. Il y aura quelqu'un qui vous fera entrer. N'ayez crainte, personne ne soupçonnera rien. Mais peut-être avez-vous oublié ce que disait la lettre? Mrs. Annesley affronta ce défi avec un aplomb imprévu. Se calant dans son fauteuil, elle regarda son amie et répondit.
Non, je la connais par cœur, moi aussi.
Et sa signature, seulement à vous seul, DS. C'était bien cela, j'ai bien raison, n'est-ce pas?
C'était bien la lettre qui vous a fait sortir ce soir-là après la tombée de la nuit ?
Mrs. Annesley la regardait toujours. Il semblait à Mrs. Slade que derrière le masque volontairement sous contrôle de son petit visage calme, elle se livrait à une lutte intérieure. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse aussi bien garder le contrôle, pensa Mrs. Slade, presque avec ressentiment. Mais à ce moment, Mrs. Annesley se mit à parler.
Je ne sais pas comment vous avez su. J'ai brûlé cette lettre immédiatement.
Évidemment, vous l'avez brûlée. Vous êtes si prudente.
Elle ricanait ouvertement maintenant.
Et si vous avez brûlé la lettre, alors vous vous demandez comment j'ai bien pu savoir ce qu'elle contenait. C'est bien ça, n'est-ce pas ?
Mrs. Slade attendit, mais Mrs. Annesley ne parla pas.
Eh bien, ma chère, je sais ce que contenait cette lettre, parce que c'est moi qui l'ai écrite.
Vous l'avez écrite ?
Oui.
Les deux femmes restèrent debout à se regarder l'une l'autre aux dernières lueurs dorées du crépuscule. Puis Mrs. Annesley se laissa retomber sur son fauteuil.
Oh ! Murmura-t-elle, et elle se couvrit le visage de ses mains.
Mrs. Slade attendait nerveusement un autre mot ou un mouvement.
Rien ne vint, et à la fin elle éclata « Je vous fais horreur !»
Les mains de Mrs. Annesley retombèrent sur ses genoux, découvrant un visage ruisselant de larmes.
« Je ne pensais pas à vous. Je pensais « C'est la seule lettre que j'ai jamais reçue de lui. »«
Et c'est moi qui l'ai écrite. »«
Oui, je l'ai écrite. »
Mais j'étais la fille à laquelle il était fiancé. Est-ce que vous vous souvenez de ça ?
Le visage de Mrs. Annesley s'affaissa à nouveau.
Je ne cherche pas à me trouver d'excuses. Je me souvenais.
Et pourtant vous y êtes allé.
Pourtant j'y suis allé.
Mrs. Slade posa son regard sur la petite silhouette recroquevillée à ses côtés. La flamme de sa colère s'était déjà éteinte. Et elle se demandait comment elle avait jamais pu penser qu'elle éprouverait une quelconque satisfaction à blesser ainsi sans raison son amie. Mais il lui fallait se justifier.
« Comprenez-vous, j'avais tout découvert, et je vous haïssais, je vous haïssais. Je savais que vous étiez amoureuse de Delphine, et j'avais peur, peur de vous, de vos manières tranquilles, de votre douceur. Eh bien, je voulais me débarrasser de vous, voilà tout. » Juste pour quelques semaines, jusqu'à ce que je sois sûre de lui. Alors, prise d'une rage aveugle, j'ai écrit cette lettre. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis maintenant.
Je suppose, dit lentement Mrs. Annesley, que c'est parce que vous m'avez toujours détesté.
Peut-être, ou parce que je voulais évacuer tout cela de mon esprit.
Elle fit une pause.
Je suis heureuse que vous ayez détruit la lettre. Évidemment, je n'ai jamais pensé que vous auriez pu en mourir.
Mrs. Annesley restait profondément silencieuse, et Mrs. Slade, penchée au-dessus d'elle, avait conscience d'un étrange sentiment d'isolement, comme si elle s'était coupée du chaud courant de la compassion humaine.
Vous pensez que je suis un monstre ?
Je ne sais pas. C'était la seule lettre que j'ai eue de lui, et vous dites qu'il ne l'a pas écrite.
Ah, comme vous vous souciez encore de lui !
Je chérissais ce souvenir, dit Mrs. Annesley.
Mrs. Slade continuait à la regarder. Elle semblait avoir été physiquement amoindrie par le choc, comme si, se levant, elle eût pu être emportée par le vent comme une poignée de poussière. La jalousie de Mrs. Slade se réveilla à cette vue. Pendant toutes ces années, cette lettre avait empli toute la vie de cette femme. Combien elle devait l'avoir aimée pour vénérer ainsi le souvenir de ses cendres. La lettre de l'homme qui était fiancé à son amie, n'était-ce pas elle le monstre ?
Vous avez fait de votre mieux pour l'éloigner de moi, n'est-ce pas ? Mais vous avez échoué, c'est moi qui l'ai gardée, c'est tout.
Oui, c'est tout.
Et maintenant, j'aurais préféré ne rien vous avoir dit. Je n'avais aucune idée de la façon dont vous alliez réagir,
je pensais que cela vous aurait amusé. C'est arrivé il y a si longtemps, comme vous dites, et vous devez me rendre justice de vous souvenir que je n'avais aucune raison de penser que vous le prendriez aussi sérieusement. Comment pouvais-je le penser alors que vous vous êtes marié avec Horace Hansley 2 mois plus tard? Dès que vous avez pu quitter votre lit, votre mère vous a envoyé à Florence pour vous y marier. Tout le monde était plutôt surpris. On se demandait pourquoi une telle précipitation, mais moi je croyais le savoir. Je me disais que vous l'aviez fait par dépit, pour pouvoir vous dire que vous étiez allé plus vite que Delphine et moi. Les jeunes ont toujours les raisons les plus sottes de faire les choses les plus sérieuses. Et votre mariage si rapide a fini de me convaincre que tout cela n'avait jamais eu tellement d'importance pour vous. Oui, je suppose, reconnut Mrs. Hansley. La voûte du ciel au-dessus d'elle avait perdu tout son éclat doré. Le crépuscule s'y étendait, assombrissant soudain les 7 collines. Ici ou là, des lumières commençaient à scintiller à travers le feuillage à leurs pieds. On entendait des pas qui allaient et venaient sur la terrasse déserte. Des serveurs se montraient à la porte en haut de l'escalier, puis réapparaissaient portant des plateaux, des serviettes et des flacons de vin. Des tables furent déplacées, des chaises rangées. Les faibles ampoules électriques finirent par s'éteindre. Une dame corpulente en manteau de voyage apparut soudainement, demandant dans un mauvais italien si quelqu'un avait vu l'élastique qui lui servait à fermer son vieux guide Baedeker. Sous le regard des serveurs, elle cherchait avec sa canne à l'endroit où elle avait dîné. Le coin de la terrasse où se trouvaient Mrs. Slade et Mrs. Hansley était toujours sombre et désert. Pendant longtemps, aucune des deux ne parla. Enfin, Mrs. Slade reprit « Je suppose que c'était comme une sorte de farce. » « Une farce ? » « Oui, les filles sont féroces quelquefois, vous savez, les filles amoureuses tout spécialement. Et je me souviens avoir bien ri toute seule ce soir-là, à l'idée que vous étiez en train d'attendre là-bas dans le noir, restant bien hors de vue, écoutant chaque son, essayant d'entrer. » Bien sûr, j'étais navré quand j'ai appris que vous aviez été malade par la suite. Mrs. Hansley n'avait pas bougé depuis un certain temps. Mais elle se retourna lentement vers sa compagne. « Mais je n'ai pas attendu. Il avait tout arrangé. Il était là. On nous a fait entrer tout de suite, » dit-elle. Mrs. Slade se leva soudainement. « Delphine était là ? Ils vous ont laissé entrer ? Ah, là, vous mentez ! » s'écria-t-elle avec violence. La voix de Mrs. Hansley s'éclaircit, plein d'étonnement. « Mais bien sûr, il était là. Bien sûr qu'il est venu. Venu ? Et comment savait-il qu'il vous trouverait là ? Vous délirez ? » Mrs. Hansley hésita comme si elle réfléchissait. « Mais j'avais répondu à sa lettre. » Je lui avais dit que je serais là, alors il est venu. Mrs. Slade plongea son visage dans ses mains. « Oh mon Dieu, vous avez répondu ! Je n'avais pas prévu cela. » « Il est curieux que vous n'y ayez pas pensé, puisque c'est vous qui avez écrit la lettre. » « En effet, j'étais aveuglé par la rage. » Mrs. Hansley se leva et rajusta son écharpe de fourrure. « Il fait froid ici, nous ferions bien d'y aller. »« Je suis désolée pour vous, » dit-elle, tandis qu'elle refermait la fourrure autour de sa gorge. Ces mots inattendus frappèrent Mrs. Slade. « Oui, nous ferions mieux d'y aller. » Elle ramassa son sac et son manteau. « Mais je ne vois vraiment pas pourquoi vous pourriez être désolée pour moi, » murmura-t-elle. Mrs. Hansley était restée à regarder au loin la masse ténébreuse du Colisée. « Eh bien, parce que je n'ai pas eu à attendre cette nuit-là. » Mrs. Slade fit entendre un rire agité. « Oui, là vous avez marqué un point. Mais je crois que j'aurai mauvaise grâce à vous envier après toutes ces années. Après tout, c'est moi qui ai tout eu. Je l'ai eu, lui, pour 25 ans, et vous, vous n'avez rien eu, si ce n'est cette unique lettre qu'il n'a même pas écrite. » Mrs. Hansley resta à nouveau silencieuse. Elle finit par faire un pas vers la porte de la terrasse, puis se retourna face à son amie, et, avant de la précéder en direction de l'escalier, elle lui dit : « J'ai eu Barbara. »